لا
On entend ?
Oui.
Oui, apparemment, il y a une coïncidence entre Juan David et moi. Je ne savais pas. Je viens de l'avoir au téléphone. Il m'a envoyé son livre que je n'avais pas eu, jamais. Et j'avais écrit un an avant l'apparition de son livre un article qui termine par traverser son angoisse, le mur de son angoisse. Le bouquin de Juan David, il est publié la première édition en 90 et j'ai écrit cet article qui est paru dans Espace pour la psychanalyse en 89. Bon, mais après la conversation et après avoir écrit ce que j'ai écrit, je pourrais bien donner comme titre ce qui est pareil. Je donne une équivalence logique. Le Aleph de l'angoisse. Excusez-moi, je veux mettre. Le Aleph de l'angoisse. Lorsque j'ai commencé la semaine dernière à, disons, à coucher par écrit quelques notes pour vous parler, et je pensais surtout à certains patients et à certaines patientes. C'est-à-dire que j'essayais de revoir le texte de Lacan en fonction des problèmes posés par certains analystes. Il faut que je vous dise que, à mon avis, le texte de Lacan, le séminaire sur l'angoisse, est un texte révolutionnaire dans l'histoire de la psychanalyse. Il pose une théorie de l'objet, des pulsions, qui n'est pas chez Freud. C'est une théorie nouvelle. Il est très directionnel, c'est-à-dire qu'il y a une seule position où j'entends que bon. Il y a quelque chose de complètement nouveau, même si ça se présente comme une lecture d'inhibition, symptômes et angoisse. Ce que Lacan va poser de façon théorique et clinique est inconnu, ou seulement il est en statum nascendi chez Freud. C'est-à-dire qu'il y a une modification non seulement théorique du statut de l'objet, mais il y a une modification qui fait à la clinique. C'est ça l'importance extrême de ce texte. Qui, néanmoins, je vais essayer, si j'arrive, à montrer qu'il n'est pas terminé qu'à partir de 75, entre 70 et 75, il y a des modifications que Lacan a fait, qu'on pourrait centrer. Ce n'est pas des modifications essentielles, mais qui éclaircissent, qui font des éclaircies, qui donnent des éclaircies sur 62, 63. Sans le modifier. Or, le hasard fait bien les choses. Quand j'étais en train de coucher par écrit, je dis coucher par écrit parce que je suis assis à mettre un autre sur l'once qui me passait par la tête. Il y avait France Musique dans une autre pièce et j'entendais Malheur, un livre de Malheur. Et si, je veux le dire en allemand, mais pas parce que je veux le pas pour le prononcer en allemand, parce qu'en allemand on dit ça d'une façon qu'on ne peut pas traduire en français. J'entends lire Malheur, je crois que c'est
d'Avenir du Jadim, il n'y a pas de traduction vraiment en français, La vie sur terre, enfin la vie sur terre, en supposant sur terre qu'il y a une autre vie, parce qu'après il y a un autre livre qui s'appelle La vie céleste. Dans ce livre de malheur, il y a un enfant qui dit à sa mère, est-ce qu'on dormit ? J'ai faim. Seulement qu'en allemand, j'ai faim, on ne dit pas avec un sujet, mais c'est le S, le ça, qui est le sujet de la phrase. C'est pour ça que je dis. C'est-à-dire qu'il y a le ça qui dévore de faim le sujet. C'est le ça qui apparaît. Évidemment, si on a à traduire, on traduit « j'ai faim », on ne se fait pas de problème. Mais il y a le « S » de l'allemand qui va être ce que je vais essayer. Ça coupe. Disons que... Oui. Ce n'est pas étranger au fait que de ça, chez Freud, et cette importance-là, l'usage du neutre, de la troisième personne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... Quand on dit Yeshmi, il neige, ça n'est pas un problème, mais quand on dit Eskundarnich, c'est-à-dire que c'est la fin qui s'appare de moi. Ce qui est une nuance qu'il faut rendre en français par une périphrase. Et la mère répond, évidemment, Bartenor attend, attend seulement, my little kid, mon fils chéri, mon fruit de manteau. Mais ça se répète, et la musique devient plus lancinante chaque fois. À chaque fois qu'une incidente, et on comprend que l'enfant meurt de faim. Et je me suis dit, bon, mais c'est très bien, parce que c'est ça l'objet oral qui n'est pas un objet. La nouveauté introduite par Lacan par rapport à l'oralité, et c'est tout à fait différent que chez Freud et que chez Mélanie Klein, c'est que le sein n'est pas un objet lorsque on est au niveau temporel, logique de l'oralité. Ça devient un objet après, par rétroaction. Et ça, c'est une révolution, parce que le sein ne peut se constituer objet que lorsqu'il y a rétention anale. C'est-à-dire que, à la fin, lorsque l'enfant joue avec le sein, c'est-à-dire se retire du sein, le regarde, si j'ose dire, joue avec le sein comme avec un touching ball, avec le lèvre, là on peut dire que ça commence à y avoir un objet. Ce qui fait que l'angoisse, il y a sa racine dans l'oralité, si la structure a un point d'appui dans l'oralité, et ça c'est vieux comme depuis la deuxième génération freudienne, c'est-à-dire que depuis les premiers disciples de Freud, pas des Viennois, je dis à partir d'Abraham, etc., on dit que l'hystérie est orophalique. Pas tout le monde. Pas tous les hystériques sont vraiment orophaliques, mais lorsque dans une hystérie il y a une grosse composante orale, l'angoisse qui est là, ce n'est pas angoisse signale, parce que le moi n'existe pas. Vous me direz, mais quand quelqu'un est névrosé, ben, il y a un moi. Oui, mais dans l'hystérie, il y a la crise hystérique, c'est un rappel, la crise d'angoisse hystérique, c'est un rappel de ce que Freud écrit des schismes, des crises d'orge, appelées l'état de détresse, c'est-à-dire la hypnose, c'est-à-dire l'état de sans secours, dont détresse est un bon mot en français. Et cette fin, disons, il faut dire que le grand autre au niveau de l'oralité, c'est la fin. C'est l'absence d'autre. C'est-à-dire que quand un patient raconte qu'ils sont sans autre, c'est vrai. C'est-à-dire que l'autre disparaît même s'il est là. Et c'est une angoisse excessivement difficile à traiter en analyse parce qu'il y a quelque chose qui est réel. Alors vous me direz, c'est le réel de la structure. Je vous dirais, je me demanderai si je fais un schéma là. Lorsque dans le graphe, Lacan écrit expansion des grandes, c'est-à-dire le lieu de la pulsion, est-ce qu'on a à voir seulement à la pulsion? C'est-à-dire, il y a une structure et on a affaire à une structure en pensée. Ou bien la hypnose, c'est-à-dire la détresse, est un signifiant, si j'ose dire, puisqu'il n'y a pas de signifiant là, qui est efface. D'un côté, est structural, parce que ça correspond à l'oralité, mais de l'autre, pourquoi une telle inscription de l'oralité comme, non pas comme manque, mais comme autre chose qui n'est pas là, qui est seulement fin, dévorant, des scrupules, ça me dévore. Il y a une phrase traumatique, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec ce que Lacan écrivait dans le moment logique antérieur à la pulsion, c'est-à-dire la pulsion s'inscrit à la place du lieu où l'autre est en rapport avec la coupure de son désir, c'est-à-dire qu'il y a l'autre qu'un sujet réel. Je me rappelais d'un cartel excellent avec mes amis que j'ai fait à l'école première de Paris et qui a continué après la discussion, où le point où nous sommes rencontrés, c'était sur une discussion entre nous. Il y avait ceux qui tenaient à la reconstitution de l'histoire et à donner à l'autre réel, au sujet qui est derrière l'autre, une place éminente. Et il y avait ceux qui disaient, mais on analyse que le fantasme. Et en pensant à ces discussions très fructueuses qui ont eu lieu il y a 25 ans, je me disais que c'est un point qui se répète dans l'histoire de la psychanalyse depuis le disciple de Freud. Ceux qui tiennent à analyser le fantasme, je suis d'accord, et ceux qui tiennent, à l'instar de Ferenczi à l'époque, par rapport à Freud, de Winnicott par rapport à Klein, et il y a eu à chaque étape de l'histoire de la psychanalyse une certaine bascule entre ceux qui privilégient le sujet derrière l'autre et ceux qui privilégient la structure, ce n'est pas. Je m'inscris un faux dans la division. Je pense que ce sont deux moments logiques de la cure, mais qu'effectivement, Freud reconnaissait qu'il y a des analyses interminables. Je pense que les analyses interminables, je parle toujours des névroses, ce sont ceux où le poids du désir de l'autre réel a prévalu sur les conditions nécessaires pour que la séparation se fasse. C'est-à-dire la séparation, c'est une opération du sujet qui va pas sans angoisse, ni un rôle de l'autre dans les limites qui met à l'angoisse. Je parle toujours de névrose, je ne pense pas au cas de psychose que j'ai même disons, dans mon bureau, en ville. Parce que là, il se passe quelque chose d'autre. C'est pas par rapport à l'oralité. Or, ce livre de malheur, tout de suite, qu'est-ce qui me venait en tête, après la parole, puis après j'ai éteint la radio pour pouvoir écrire, ce qui me venait en tête, c'est un seul de Pétain. Comment dire? Un seul de Pétain. C'est le conte. En allemand, c'est bien, c'est non plus. Alors, les deux enfants, les deux frères et sœurs, qui sont enfermés par la marâtre, par la mauvaise mère, qui les fait grossir pour mieux les manger. Est-ce que c'est pareil à l'angoisse de la faim qui dévore? Non. Dans le fantasme d'une mère qui va se repaître de l'enfant, qui va le réincorporer, on est à un autre niveau. On est des gens niveau. C'est une mère phallique. C'est une mère qui jouit un peu trop de son enfant. Et le conte raconte bien un fantasme qui a son universalité. C'est cette mère que Lacan disait le crocodile, c'est-à-dire il faut avoir un maître, un traversin, un maître, une barre pour qu'elle ne ferme pas la bouche. Mais ces deux, le premier exemple, c'est l'oralité pure, le deuxième, c'est l'oralité qui est passée déjà par le pratique. Parce que je veux te manger, c'est déjà une métaphore de la relation sexuelle. C'est-à-dire que, dans le premier cas, on a comme cause de l'angoisse, je ne dis pas objet, cause de l'angoisse, c'est le désir de l'autre. Dans le conte des Grimm, c'est la jouissance de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais pourquoi Lacan met le désir du côté de la production de la jouissance et il met la jouissance de l'autre aussi? C'est-à-dire que c'est complètement différent. Parce que le désir de l'autre est cause du sujet. Et l'angoisse, Lacan appelle, va en direction de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction du sujet, mais il n'y a pas de processus analytique sans le guide de l'angoisse qui va signaler quel est l'objet à perdre. Or, dans le séminaire de l'angoisse, il y a un seul objet à... Enfin, il y a cinq, vous me direz. Mais ce sont l'objet des pulsions de Freud. C'est-à-dire c'est un traitement différent. Il retraite et renoue avec l'objet des pulsions de Freud. À partir de 70, surtout à Rome, 73, 74, dans la troisième, 74, Lacan propose un autre pas qui n'est pas chez Freud et qui n'est pas l'objet des pulsions. Alors, je vous ai fait un schéma très connu. Ça, c'est la formation du moi au niveau du moi archaïque. Le corps se constitue comme image réelle autour de l'objet pulsionnel. Ça, c'est le moi. Et la quantité, ça, c'est le narcissisme primaire. Il ne dit pas qu'il y ait des temps réels, n'importe. Il dit que c'est le narcissisme primaire. Et il écrit ici la castration. Ici, il y a l'imprimé, c'est-à-dire l'image du semblable dans le livre de l'autre. La nouveauté n'apparaît pas dans toutes les émissions. Il y a quelque chose de très important que Lacan écrit ici. Il écrit, ce n'est pas, je crois, dans la version des éditions du Seigneur. Ce mot-là, vraiment, ne figure pas dans l'édition des éditions de Seigneur. Par ailleurs, il y a des phrases très belles qui ne sont pas dans d'autres éditions. Enfin, je ne pour faire le Heim ne se réfère pas seulement à l'Unheimlichkeit de Freud, la prétendue étrangeté. Vous savez qu'en allemand, la prétendue étrangeté, tout d'un coup, devient étranger pour moi et inquiétant, qui est une forme d'angoisse. Eh bien, du mot Heim, laisse home, vous voyez. Ce qui est important, c'est que Lacan écrit ici que c'est cette image-là virtuelle, l'image du semblable, qui est mon foyer de sujet. C'est pour ça que j'ai écrit le sujet. Et en même temps, c'est une réponse à Heidegger. J'aurais pas le temps de texte à Heidegger ici que j'ai relu. J'aurais pas le temps, mais c'est une réponse à Heidegger. C'est-à-dire que, je vous en insiste, il y a eu un certain nombre de philosophes heideggeriens qui disaient que Lacan avait pompé chez Heidegger. Lacan a utilisé Heidegger pour le retourner. C'est là qu'on dit le texte de Heidegger paraîtrait écrit par quelqu'un qui avait lu une faute, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'Heidegger écrit son voix des choses ayant lu Kierkegaard qui sont, qu'un analyste doit connaître. Mais qui dans la traduction française, si on n'a pas les mots en allemand, on ne comprend pas que c'est les mots de Freud. Les mêmes mots de Freud sans le savoir qu'Heidegger emploie pour parler de la voix. Donc, étrangeté. Mon objet aujourd'hui, c'est la chiflose. La détresse et la répétition de la détresse dans les analyses. Quelle est l'opération? Ce que Freud dit, ce que Lacan parle tout le temps dans le séminaire, c'est qu'il s'agit de transvaser ce qui est là, à gauche, que le A, c'est-à-dire l'objet pulsionnel, l'objet de jouissance très spéculaire, il ne dit pas d'où il sort, il va le dire à partir de 67-70. C'est l'effet de l'autre qui est dans le corps de ce qui va devenir un sujet, qui est de la jouissance, qui va être coupé par la pulsion. C'est un effet de l'autre, c'est l'effet du langage qui crée la jouissance. C'est grâce à ça qu'il va y avoir à moi, il va y avoir plus. Il y a une opération qui peut ou ne pas se faire à partir de l'autre vers cet objet qui peut être le philosophe. Cette opération, la castration, et ce n'est pas la castration du bien, c'est ça la nouveauté apportée par la France. Cette castration, qui la situe au moment de l'apparition du miroir plan. C'est-à-dire que le miroir est déjà quelque chose qui se fait avec une autre opération. Est-ce la même opération ou ce sont deux opérations différentes qui coïncident? Je ne vais pas conclure là-dessus. Je pense, si je lis l'angoisse à partir de 75, qu'il y a une opération signifiante qui permet que l'objet disparaisse et que la fonction de la cause s'exerce. Pour ici, ce qui va apparaître, c'est moins ça. C'est-à-dire une jouissance médiatisée. Cette jouissance médiatisée, c'est ce qui va me permettre que d'avoir un semblable auquel je m'identifie. Disons, s'il n'y a pas cette opération-là, on va l'exposer. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas la castration édipienne. J'ai mis ici S5, c'est-à-dire que c'est ma lecture, ce qui permet que, ce qui fait que l'objet subisse la syncope qui va lui faire cause et qui va le faire invisible, c'est l'énumération d'un trait du signifiant de l'être. Que pourrait décrire autrement si j'en viens au nœud de 75? J'ai un corps, le corps, donc, on va faire en sorte de décrire un mythe. Il y a le corps du bébé, il y a l'attendage. Ces deux ronds sont empilés, ils ne sont pas noués. C'est simplement le corps coexiste avec le langage. Qu'est-ce qui fait que le langage rentre dans le corps, si j'ose dire? C'est-à-dire ce nouveau corps. C'est l'opération phallique. C'est la phallicisation que l'autre fait du corps, tout du soma biologique des enfants. Mais ça va se nouer, de façon romaine, non, mais ça va se nouer, lorsque le signifiant va venir recouler les traces de jouissance dans lesquelles consiste l'identification primordiale du narcissisme primaire, de recoulement primordial. Ce que je puis là, c'est A0, pour rendre compte de cette formule qu'Anne a écrit une seule fois dans la conférence des noms du Père qui achevait son séminaire et qui marquait sa mise au dehors de l'Union. Le nom du Père, non seulement il ne l'a jamais refait, mais il n'a jamais plus jamais écrit cette lettre-là, Aleph, pour signaler l'angoisse. Qui vient à la place du nom du Père, qui permet qu'il y ait un Dieu. Pourquoi Lacan écrit cela? Pourquoi il appelle cette angoisse-là? Il faut que, avant, je vous dise pourquoi c'est important. Parce que l'objet qui apparaît dans les rêves ou dans les fantasmes n'est pas nécessairement un objet de séparation. Lacan a répété à l'envie que l'objet A était l'objet de la séparation, l'objet de la castration. Mais je dis, mais pas toujours. C'est-à-dire, il y a des fois où l'objet, dans les cauchemars, l'objet anal, par exemple, qui apparaît dans les cauchemars, mais non, ce n'est pas l'objet anal. Ce n'est pas l'objet de pulsion. C'est l'objet A en tant que tel. Quand Lacan introduit dans la troisième à Rome l'objet en tant que tel, il dit c'est l'objet dont on n'a pas d'idée. Bon, ça c'est une référence. C'est une référence à Kant. Disons que
il n'y a pas d'idée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée de la raison qui puisse rendre compte de l'objet. C'est-à-dire, c'est une critique implicite à Kant, mais c'est une façon de nous dire que ce n'est pas dans l'inconscient, il n'y a pas de représentant dans l'inconscient qui rende compte de cet objet. Puisque de l'objet de pulsion, il y a un représentant inconscient. Il y a une souche, il y a S1 qui est le signifiant d'où il y aura des rejetons freudiens. Mais de A en tant que tel, il n'y a pas de représentant de la représentation. C'est ça qu'il est en train de dire de façon parapiscopée Lacan en faisant appel à Kant en disant qu'il est en train de dépasser Kant. Il n'y a pas d'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant inconscient. Et c'est là où je situe la difficulté qui est propre à la névrose et que Freud a bien senti quand il écrivait le moi de ça, malgré le fait que Lacan a toujours dit pique et pendre du schéma du moi et du ça, peut-être qu'il a raison Lacan, mais que la question du ça est un problème analytique et que Lacan a essayé de résoudre en introduisant un trou d'un objet qu'il appelle la naissance de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas représenté ou représentable et qui dépasse l'inconscient et qui va seul se faire entendre, hélas, dans le moi, dans la vocifération sur moi. Le fait qu'on la femme critique ou Freud ou Heidegger, n'importe qui, c'est une façon de le faire entrer dans la psychanalyse et de dire là, il y a quelque chose d'important, mais je prends un autre biais, mais je m'appuie. La critique chez Lacan, c'est un point d'appui. Et ce qui m'intéresse alors, c'est l'introduction de A en tant que tel. A en tant que tel. Et quand il apparaît, c'est un objet dont on n'a pas d'idée, il n'y a pas de représentant personnel. Par exemple, quand dans certains cauchemars, les gens rêvent. Parce qu'un cauchemar, ce n'est pas un rêve d'angoisse. Dans le cauchemar, il y a de la jouissance de l'autre. Et l'objet n'a pas de vertu de coupure, il n'y a pas d'opération de la cause, ça ne permet pas de faire du désir. Quand l'objet anal apparemment apparaît dans toute sa puanteur, c'est un objet qui colle, c'est un objet collant, c'est un objet que Lacan, que Freud décrivait dans les années 30 comme la viscosité de l'individu. Ce n'est pas une métaphore orale et pas crête, celle de Freud, de la viscosité de la libido. Il est allé la trouver dans l'écriture du second principe de la thermodynamique. C'est-à-dire la première fois que le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire la loi d'entropie, a été écrite au milieu du 19e siècle. On n'écrivait pas des équations, il y avait des longs traités écrits jusqu'à ce qu'on pouvait faire des équations. Et là, le mot viscosité est très bien. Eh bien, la question, et je termine, je n'ai pas encore parlé du bien, pourquoi le Hadef? Pourquoi le Hadef pour signaler l'angoisse? Le Hadef, en hébreu, c'est une lettre qui est en dehors des autres lettres, parce que ce n'est pas une consonne à qui on va donner une valeur vocalique. C'est la consonne qui écrit la position de la glotte pour que l'articulation des autres consonnes
avec des valeurs relocalisées, soit possible. Ce que Lacan, parce que Lacan écrit toujours de façon mystérieuse, c'est-à-dire qu'il pose toujours des énigmes. C'est-à-dire qu'il écrit là, mais il ne dit pas pourquoi. Ce qui veut dire que s'il met l'oeil là, il dit que cet endroit-là est condition d'articulation. D'articulation de quoi? Et du désir de l'autre. C'est-à-dire que cette angoisse, même lorsqu'elle a un caractère de souffrance, elle permet, c'est un vecteur qui nous signale une direction, qui peut éventuellement permettre à l'analysant et à l'analyste d'articuler le désir de l'autre. Et alors, là, oui, on peut passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire à faire des phrases. Au revoir. Merci.